Je salue les auditeurs de Parole à Dour et tiens à remercier la Web Radio d'avoir accepté une nouvelle fois de mettre en ligne des enregistrements de la conférence Sainte Catherine d'Alexandrie. Je dis une nouvelle fois parce qu'il y a déjà dans la rubrique Spiritualité, à l'onglet Conférence, deux enseignements donnés par le frère dominicain Pavel Sisoyev, à l'origine de notre groupe de philosophes chrétiens à Bordeaux. Mais l'onglet philosophie est encore vide. Nous avons donc proposé de commencer à le remplir en diffusant l'enregistrement de nos dernières rencontres. Une série sur la nature, thème de la session estivale de la conférence Sainte-Catherine d'Alexandrie, est en cours de préparation. La première série donc que nous vous proposons aujourd'hui reprend les exposés de la conférence du samedi 12 juin dernier sur le thème de la connaissance de l'être qui s'est tenue au couvent des Dominicains de Bordeaux. Le premier enseignement a été donné par le frère David Perrin qui dirige le studium au couvent des Dominicains de Bordeaux. Il a médité sur ce passage du prologue de l'évangile de Saint Jean, « Ce qui a été fait en lui était vie », Jean 1, 4. Il a abordé ainsi les réalités dans le Verbe. Marc Conturi, professeur de philosophie au lycée Saint-Jacques de Compostelle à Dax, s'est interrogé quant à lui sur la connaissance de l'être par ses accidents. La conférence donnée par Éric Trélut, professeur à la SOC, à la Brède et doctorant à l'Institut catholique de Toulouse, concerne cette formule de Charles de Coninck, « Tout réel est étoffe d'esprit ». Il y étudie en particulier la place des mathématiques dans la philosophie thomiste et la voie du symbole chez Charles de Coninck. La quatrième conférence de Jérôme Rajoeli, professeur de philosophie au lycée Montaigne à Bordeaux, a porté sur « L'être ou la vie, ce que connaître veut dire » selon Michel Henry. Et enfin, Enzo Godino, professeur de philosophie et doctorant en philosophie antique à l'université Bordeaux-Montaigne, a conclu ce cycle en montrant comment dépasser la perspective sceptique. Il a intitulé son exposé « L'insoutenable ignorance de l'être ». Mais avant de commencer l'écoute de ces cinq premières conférences de la session de Bordeaux, lisons la prière de saint Thomas d'Aquin avant l'étude et le prêche. Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse avez élu trois hiérarchies d'anges et les avez établis dans un ordre admirable au-dessus des cieux. Vous qui avez disposé avec tant de beauté les parties de l'univers, vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse, et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté. Écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits-enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme et qui vivez dans les siècles des siècles. Amen.
Alors déjà, merci beaucoup Arnaud pour finalement pour votre invitation, parce que c'est la première fois que je vous rejoins donc dans ce groupe. Je suis le frère David, dominicain. Je suis prêtre depuis 4 ans et à Bordeaux aussi depuis 4 ans. Donc mes missions sont assez variées ici. Notamment, je m'occupe beaucoup de jeunes, étant donné mon relatif jeune âge encore, mais également donc des scouts, des couples. Et je suis aussi depuis 2 ans directeur des études au Studium de Bordeaux. Donc, vous savez que la formation dominicaine dans la province de Toulouse se passe à Marseille pour le noviciat, à Bordeaux pour la philosophie et à Toulouse pour la théologie pendant 4 ans. Donc là, c'est ce qu'on appelle le premier cycle. Et donc c'est moi qui suis responsable de gérer les programmes, les professeurs, les frères étudiants aussi, et de constituer donc un beau programme de philosophie, mais aussi d'initiation à la théologie, puisque on commence, comme dans tous les séminaires, la théologie fondamentale, également à Bordeaux, avec également les études d'exégèse. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme rapide présentation Je suis littéraire de formation. J'ai fait une thèse que j'ai achevée en tant que frère sur Giono, donc un païen, un vrai païen, mais qui est hanté par la question de Dieu et de son absence. Et donc cette thèse, grâce à Dieu, sera publiée en fin juillet de cette année. Donc c'est une grande, grande satisfaction et joie parce que c'est un travail que j'ai mené en solitaire, un peu en marge à la fois de l'ordre, puisque les frères me disaient pourquoi tu travailles sur un païen et tu fais de la poésie et en plus sur un païen, on comprend pas. Et à la fac, on me disait aussi, parce que c'était à l'université de Bordeaux 3, pourquoi vous travaillez, vous qui êtes prêtre, sur un auteur littéraire. Donc personne ne comprenait, mais il y avait vraiment des choses à dire. Voilà. Et une dernière petite chose, je pense faire un travail aussi en théologie d'ici quelques années sur la vie en Dieu. Et j'ai pas commencé du tout, j'ai pas commencé à lire de bibliographie, toutes les œuvres de Saint Thomas et tous les passages concernant la vie ne me sont pas connus, mais ça a été quand même un petit point de départ pour l'exposé très rapide d'aujourd'hui. Je vous donne un petit peu le cadre. Donc, je commence à présent. Quod factum est in ipso vita erat, tout ce qui a été fait en lui est la vie, était la vie. Jean 1,4, les réalités dans le verbe. Pour un réaliste, comme on sait, la réalité, la vraie, est celle qui est là sous nos yeux. La réalité sensible n'est pas le prolongement ou la copie dégradée d'une réalité qui serait plus vraie qu'elle, qui en serait le modèle. Il n'y a pas pour le réaliste d'arrière-monde, idéal, idéal, plus vrai et plus réel, où l'idée du lit, pour reprendre l'exemple de la République bien connue, serait plus lit que le lit de l'artisan. Ce qui existe pour de bon et pour de vrai, comme disent les enfants, c'est le lit de l'artisan, c'est l'arbre que je vois dans la rue, et non pas des formes subsistantes séparées. C'est cela qui existe, cela que je cherche à connaître, et que je peux connaître par ma raison. Le réaliste se garde donc de confondre, comme le faisait Platon, le mode d'être de la réalité extramentale et le mode du connaissant. Saint Thomas souligne ce point dans la Somme de théologie. Vous pouvez regarder le texte 1. Donc, je vais lire ce texte important qui est dans le traité de l'âme et qui est un passage extrêmement important au sujet des opérations intellectuelles et de la connaissance des réalités corporelles. Saint Thomas dit la chose suivante. Platon nous paraît s'être écarté de la vérité en ceci, pensant que toute connaissance s'obtient au moyen d'une certaine ressemblance de l'objet, il crut que la forme de l'objet connu devait être nécessairement dans l'objet connaissant, sous le même mode que dans l'objet. Or, il observa que la forme d'une chose connue était dans l'intelligence sous un mode universel, immatériel, immobile. Cela est manifeste dans l'acte même de l'intelligence qui comprend d'une manière universelle et en quelque sorte nécessaire. Car la manière d'être de l'action se modèle sur la forme de l'agent. C'est pourquoi Platon pensa que les réalités connues devaient subsister sous ce mode, c'est-à-dire de façon immatérielle et immuable. Fin de citation. Saint Thomas admet avec Platon que la connaissance se fait au moyen d'une certaine ressemblance de l'objet, ce qu'il appelle les species. Mais il refuse d'assimiler l'être de la réalité intelligée et l'être de la réalité en elle-même. Pour le dire autrement, d'une manière plus simple, ce n'est pas parce que j'ai une idée du lit que le lit est une idée, d'après laquelle le lit matériel est réalisé. Le lit existe devant nous, sous nos yeux, et pas derrière nous, dans le ciel des idées. Donc, tout cela est bien connu. L'intuition platonicienne selon laquelle les idées modèles précèdent les réalités semble donc, pour un réaliste, morte et enterrée. Mais la révélation chrétienne, et en particulier le prologue de Saint Jean, semble lui donner une seconde vie. Car si pour l'homme, les réalités existantes précèdent la connaissance qu'il peut avoir d'elles, la science de Dieu, en revanche, est une science causale. Le réalisme humain s'inscrit donc dans ce que l'on pourrait appeler un idéalisme ou un exemplarisme divin, puisque les êtres procèdent de la pensée de Dieu et de la connaissance que Dieu a d'eux. La science divine est, pour reprendre la formulation du père Bonino, c'est le texte 2, le modèle et la norme transcendante de l'être et de la pensée des créatures. L'idéalisme platonicien, revu et corrigé bien sûr par la révélation, prendrait-il sa revanche sur le réalisme aristotélicien ? Pour le savoir, je partirai du commentaire de l'évangile de Jean de Saint Thomas, 1270-1272, et en particulier des deux versets du prologue, « Par lui tout a été fait », Jean 1-3, et « Ce qui a été fait en lui était vie », Jean 1-4. Alors, si vous regardez dans vos Bibles, vous apercevrez que ce verset n'apparaît pas tel quel. C'était le résultat, au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, d'une des nombreuses lectures que les pères et les médiévaux ont faites du prologue en fonction des ponctuations. En fait, quand on regarde tout le commentaire de Saint Jean, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de lectures possibles du prologue et que celle que nous avons habituellement, en fait, est très, finalement, fige le texte, car tout dépend de la ponctuation et on peut avoir vraiment des interprétations totalement différentes. Donc, c'est très intéressant de voir ça aussi. Peut-être à cause de la Bible de Jérusalem ou de nos Bibles, on a qu'une version, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Donc, première partie, tout simplement, par lui, tout a été fait. Alors, les enjeux théologiques de ce verset sont extrêmement nombreux et importants, mais impossible de les énumérer ici. Je me contenterai de rappeler les trois vérités principales que Saint Jean, selon Thomas, affirme ici. Tout d'abord, la toute-puissance de Dieu, du Fils, pardon, la toute-puissance du Fils, puisque rien n'a été fait sans lui. Deuxièmement, sa coéternité, puisque rien avant lui n'a été fait. Troisième vérité qui est affirmée dans ce verset, sa consubstantialité d'avec le Père. Pourquoi consubstantiel ? Parce que le Fils, le Verbe, lui-même n'a pas été créé. Le Fils est donc celui par qui le Père opère, non pas à la manière, ça Saint Thomas y insiste toujours, non pas à la manière d'un instrument inférieur, parce que sinon on retomberait dans l'erreur d'Arius, mais, je cite Thomas, en raison d'une puissance qui est une et indivisible avec le Père, qu'il reçoit, cependant, du Père en naissant. Donc la préposition « par » n'indique pas une causalité instrumentale, mais une causalité formelle. Le Père agit par sa sagesse et sa puissance, qui est son essence. sagesse et puissance qui peuvent être appropriées, vous le savez, c'est la théologie des appropriations trinitaires, sagesse et puissance qui peuvent être appropriées au Fils. Lisons le commentaire de Saint Jean, c'est le texte 1. En effet, quiconque fait une chose doit la concevoir d'abord dans sa sagesse. Ça vaut à la fois pour Dieu et pour l'homme, et pour les anges. Car jamais quelqu'un ne ferait quelque chose s'il ne préexistait une conception actuelle de sa sagesse qui soit forme et idée de la réalité faite. Par exemple, la forme du coffre préconçue dans l'esprit de l'artiste est l'idée du coffre qui sera réalisé. Saint Thomas, là, cite un exemple très connu de Saint Augustin. Ainsi donc, Dieu ne fait rien si ce n'est par ce que conçoit son intelligence et qui est la sagesse conçue de toute éternité, c'est-à-dire le Verbe de Dieu et le Fils de Dieu. C'est pourquoi il lui est impossible de faire quelque chose si ce n'est par son Fils. C'est ce qui fait dire à Augustin que le Verbe est, citation, l'idée contenant parfaitement ce que sont les êtres vivants. Ainsi, tout ce que le Père a fait a été fait par lui. Donc, le Verbe est l'idée, la pensée du Père. Et quand il s'agit de signifier le rapport du Verbe à la créature, saint Thomas appelle la deuxième personne de la Trinité l'art du Père. Le Fils est l'art du Père. Alors, l'expression vient du De Trinitate d'Augustin. Je vous ai mis le texte que saint Thomas cite abondamment. L'image, donc le Verbe, le Fils, est une sorte de Verbe parfait auquel rien ne ferait défaut, une espèce d'art du Dieu tout-puissant et sage, rempli de tous les principes, rationum, de tous les principes immuables des êtres vivants. Donc le rapport des œuvres à Dieu et de manière appropriée à son Verbe est un rapport d'exemplarité. Là, on retrouve l'exemplarité. Et saint Thomas l'explique dans le commentaire des sentences, c'est le texte 3. La raison de principe efficient est appropriée au Père, mais la raison de principe exemplaire, par mode d'art, est appropriée au Fils, qui est la sagesse et l'art du Père. Chaque créature, par conséquent, est dans le Fils, à la manière dont une œuvre d'art se trouve dans l'art et une chose dans sa ressemblance. Alors notons que chaque réalité est dans une parfaite concordance avec l'idée divine. Mais en revanche, du côté de l'essence divine, la ressemblance est imparfaite, la créature n'étant qu'une participation limitée. Ce point a été remarqué par Doulan dans une thèse qui a fait date sur les idées divines, qui propose de distinguer un double exemplarisme divin, une double ressemblance des créatures, l'une parfaite aux idées divines, Dieu ne rate pas sa création, ce qu'il fait, il le fait d'après et parfaitement d'après le modèle qu'il a en lui, et l'autre, donc ça c'est le premier exemplarisme, première relation, à l'idée divine, et une deuxième ressemblance qui, pour le coup, est imparfaite à la nature divine elle-même, en raison de la participation, donc déficiente, dégradée, limitée. Platon, finalement, avait entrevu, me semble-t-il, ces deux points. Il avait subodoré, un, l'existence d'idées supérieures au principe des choses, et deux, une participation, par conséquent imparfaite, des êtres naturels et artificiels à une réalité première parfaite. Mais la révélation chrétienne a corrigé et dépassé Platon en rapatriant les idées séparées subsistantes en Dieu. Alors ça, ce mouvement s'est fait même avant le christianisme. Déjà dans le néoplatonisme, on trouve une chose semblable. Donc, les réalités naturelles existent pour de vrai, mais elles ont été faites à partir d'idées qui se trouvent en Dieu et non en dehors de lui. C'est ce que dit saint Thomas, texte 4. Dieu ne pense pas les choses en fonction d'une idée qui existerait en dehors de lui. Donc, dans cette perspective, les idées en Dieu sont le modèle, l'exemplar des réalités naturelles, la forme qui dirige le faire créateur divin. Il faut relire sur ce point la définition classique d'Augustin que saint Thomas cite sans rien ajouter. Texte 5. Les idées sont de certaines formes principales ou des raisons des réalités stables et immuables qui ne sont pas elles-mêmes formées et qui partant sont éternelles et se comportant toujours de la même manière. Elles sont contenues dans l'intelligence divine et bien qu'elles-mêmes ne naissent ni ne périssent, on dit pourtant que c'est selon elles qu'est formé tout ce qui peut naître et périr et tout ce qui naît et périt. Juste une petite parenthèse, Étienne Gilson considérait les propos de saint Thomas sur les idées divines comme une sorte de concession faite à Augustin platonicien et donc reléguer les questions sur les idées en disant bah, même dans la somme contre les gentils, on ne voit plus du tout apparaître le thème des idées. Alors qu'en réalité, dans la somme de théologie, dans le commentaire de saint Jean, ça apparaît extrêmement fortement et je ne pense pas du tout que ce soit une simple concession. Enfin, pour lui, c'est vraiment structurant. Donc là, on voit bien la première dimension de l'idée divine, une idée exemplaire, mais saint Thomas dit aussi dans la question, dans la somme de théologie, que l'idée divine a une autre dimension, elle est aussi tout simplement un principe de connaissance. C'est la deuxième dimension de l'idée divine. Dieu sait ce qu'est la réalité. L'idée des réalités naturelles est donc ce que Dieu sait de cette réalité, la ratio complète qu'il en a. Donc, rien n'échappe à la science de Dieu. Là, l'idée, c'est l'objet en tant qu'il est connu. Ce n'est pas le modèle d'après lequel l'objet est fait, mais l'objet en tant qu'il est connu. Dieu a une idée de toute chose. L'idée des réalités naturelles est donc ce que Dieu sait de cette réalité, la ratio complète qu'il en a. Donc, rien n'échappe à la science de Dieu. L'idée, c'est l'objet en tant qu'il est connu. Ce n'est pas le modèle d'après lequel l'objet est fait, mais l'objet en tant qu'il est connu. Dieu a une idée de toute chose. Il a une idée de tout ce qu'il connaît, même s'il n'effectue pas la chose qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il a une idée des possibles, par exemple. Bon, après, il y a toute la question de est-ce qu'il peut avoir une idée du mal, puisqu'il ne le produit pas, non, et qu'il ne le connaît qu'indirectement dans et par l'être qu'il affecte. Mais tout ce qui est positivement est connu de Dieu et dépend de lui. Donc, tout ce qui est su est réalisé d'après une idée divine qui se trouve dans le Verbe, l'idée du Père. C'est pourquoi saint Jean dit que par lui, tout a été fait. Donc, on voit qu'Aristote et Platon sont réconciliés, corrigés et en même temps dépassés par la révélation chrétienne. Amen. Le commentaire du verset 4 du prologue nous oblige cependant à faire un pas de plus et à considérer une vérité qui, je pense, ne manquera pas de bousculer, au moins dans un premier temps, les réalistes convaincus que nous sommes. C'est ma deuxième partie. Ce qui a été fait en lui était vie.